France Inter.
Collectionneur passionné d'art contemporain, d'art brut et d'objets ethnographiques, Antoine de Galbert a créé la fondation qui porte son nom et fondé et présidé l'ancien lieu d'exposition, la Maison Rouge, à Paris. Cet ancien galeriste expose en ce moment un large choix d'œuvres de sa collection personnelle sur tout un étage du Musée d'art contemporain de Lyon. Intitulé « Désordre », extrait de la collection Antoine de Galbert, l'exposition se tient jusqu'au 7 juillet prochain. Vous y verrez du sang, de la nudité, des néons, des croix, des êtres à plusieurs bras, des prothèses oculaires et des créatures fantastiques avec lesquelles on ne voudrait pas se retrouver seul la nuit tombée. Récemment, le collectionneur a retracé un récit visuel du siècle dernier en photographie dans l'exposition « Une histoire d'images ». Donation Antoine de Galbert au musée de Grenoble, ville natale du collectionneur qui n'en est pas à son premier don. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter, Grand Canal, Eva Bester.
Bonsoir Antoine de Galbert.
Bonsoir.
À quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui ?
Alors ça, je m'attendais à cette question, ah ben oui. Je vous avoue. Et je me suis dit, en me réveillant ce matin, ma merde, j'aurais jamais dû accepter votre invitation, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter ?
Vous ne pensez pas ?
Non, mais en fait, c'est vrai que ça m'inquiète beaucoup. Je me demande vraiment ce qu'on va dire, mais ça dépend de vous.
Ah mais non, là, ça dépend de vous.
Oui, on va voir. Ouais.
Alors, rentrons dans la tête d'Antoine de Galbert, ouais. Si elle le permet. Il y a bien quelque chose qui vous a préoccupé plus que le reste, aujourd'hui ?
Écoutez, non, j'avais un rendez-vous... au Théâtre des Bouffes du Nord, parce qu'on mécène un artiste formidable qui s'appelle Fantasio. Et on prépare son intervention. Il a fait un film, d'ailleurs, c'est une bonne entrée en matière, puisque c'est un des... On a mécéné son film, qui sera projeté, et à la suite duquel il va faire un petit spectacle. Ça sera le 11 juin, voilà, j'en profite.
A-t-il un chapeau comme Fantasio ?
Non, c'est un surnom, c'est un pseudonyme, mais c'est un formidable... artiste pluridisciplinaire. Donc j'étais un peu là-dedans, parce qu'on avait rendez-vous au Bouffe, qui est un théâtre absolument magnifique.
Antoine de Galbert, en 2022, à Lisbonne, vous avez exposé des œuvres de votre collection sous le titre « Traverser la nuit ». Comment est-ce que vous traversez les nuits ?
Écoutez, relativement bien au début, et très mal à la fin. C'est-à-dire que je me lève à 5h, 6h, et comme il y a pas mal de gens, je crois, qui se lèvent très tôt.
Mais sans le vouloir.
Non, c'est comme ça, c'est mon corps qui me force à me lever. Et alors donc, je m'occupe, je lis, j'envoie des Instagram avec des œuvres d'art. Voilà, mais la vie est organisée comme ça. Et...
quand on a des collections, en fait, ça rend intense, ça double quelque chose qu'on fait déjà dans la vie, c'est qu'on pense sans cesse à l'après. Est-ce que ça plonge pas dans des états trop mélancoliques de toujours se demander qu'est-ce que je vais faire de ma collection après ma disparition ?
C'est un sujet majeur, parce que plus on vieillit, évidemment, plus le sujet nous envahit. Qu'est-ce que ça va devenir ? Et alors, je vais vous dire une chose, quand il s'agit d'œuvres connues qui ont une valeur économique, bon, c'est pas un problème, parce qu'on peut... ou les héritiers, ou on peut toujours les vendre, ou les offrir à des grands musées qui les acceptent avec plaisir. Mais tous les amis qu'on a achetés, toute une vie, comme ça, les voisins, les copains, qui sont des œuvres qui nous sont proches affectivement, mais qui ne sont pas dans le marché. C'est-à-dire que la plupart des artistes n'ont pas de valeur économique. Je dis bien économique. Et c'est ça qui m'angoisse le plus. Parce que j'en fais quoi? Ça devient quoi? Vous voyez? Et donc, en fait, on peut pas plaindre un collectionneur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent pas l'être. Donc c'est clair. Mais en fait, ça génère beaucoup d'angoisse, et surtout avec les années qui passent.
Donc le collectionneur pense plus à la mort ?
Je sais pas s'il pense à la mort, mais la mort elle est là, bon, voilà. Non, il pense plutôt à ce que tout ça va devenir, vous voyez ? Et il se dit, il faut arrêter, s'alléger, il faut... Et puis en fait, on n'arrête pas, parce que moi, je peux pas arrêter. Donc, il n'y a que la mort et la ruine qui nous arrêtent.
Il y a des jours où tout m'irrite, où je ne veux plus parler, où les gens vont bien trop vite pour atteindre mes idées. J'ai les humeurs en panique, des envies de tout casser, pas la peine de me dicter comment faire et quoi penser. Loin du
du sol là-haut dans une montagne à faire des vagues loin de vos marées. Comme l'eau toujours mouvante d'un ruisseau qui court et court et qui, en faisant, fait bouger ses pierres au seuil. Laissez-moi seul ce soir, rien qu'un instant, et je prendrai le temps de compter mes défauts. Pour le renvoi, ça bouillonne. J'ai les humeurs changeantes, la gorge en pente et les jambes en coton. Ma répartie m'abandonne, perdu les phrases qui pardonnent. Mais je ne vous en veux pas, j'ai compris ce qui n'allait pas chez moi.
Y a des jours où tout m'inquiète, quand j'entends le genre d'idée qu'on enfonce dans la tête des gens mal illuminés. Y'a des choses qu'on accepte, tant qu'elles sont pas sous le nez. Ça me fait des maux de tête, et des envies d'exploser. Qu'on m'isole, loin du sol, là-haut dans une montagne. Je ferai mes vagues, loin de leur marée. Comme l'eau toujours mouvante d'un ruisseau qui court et court et qui, en faisant, fait bouger ses pierres au sol. Laissez-moi seul ce soir, rien qu'un instant, et je prendrai le temps de compter mes défauts. Pour le renvoi, ça bouillonne, j'ai la soupape qui déconne, j'ai les humeurs changeantes, la gorge en pente et les jambes en coton. Ma répartie m'abandonne, perdu les phrases qui pardonnent, mais je ne vous en veux pas, j'ai compris ce qui n'allait pas chez moi.
Morceau seul de Voyou.
Grand Canal. Eva Bester sur France Inter.
Antoine de Galbert, je vais commencer par quelque chose d'un peu sombre, mais d'essentiel pour comprendre comment vous est venue cette vocation. Votre père, ancien résistant, est mort dans un accident de voiture lorsque vous aviez 3 ans. Et vous avez été adopté par votre beau-père, issu de la famille des frères De Forêt, les fondateurs des magasins Carrefour. Et vous avez reçu un patrimoine qui a suscité chez vous de la culpabilité. Vous vous êtes demandé qu'en faire. Alors d'abord, collectionner et puis exposer, ne serait-ce que pour les artistes.
Alors, juste petite remarque, mon père n'était pas résistant. Mais en revanche, il s'est engagé dans l'armée et il a fait la campagne d'Allemagne. Bon, c'est un détail. C'est
autant
pas vraiment un détail, mais c'est...
Ici, on aime les détails.
Et puis, je m'attendais à ce que vous parliez de ça, parce que c'est à chaque fois, on me parle de ça. Je sais pas si j'ai culpabilisé, mais en tout cas, je me suis dit qu'il fallait en faire quelque chose. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait, quoi. Plutôt que de terminer le plus riche du cimetière, comme on dit à la campagne, autant faire des choses intéressantes et en faire profiter, parce que c'est vraiment ça, quand même.
Vous avez fait d'importantes donations à des collections comme celle du musée des Confluences de Lyon, au musée de Grenoble, au centre Pompidou, au musée des Beaux-Arts de Lyon. Est-ce que le don pur existe? Le don dénué d'intérêt?
En ce qui concerne donner une œuvre, oui, j'ai pas d'intérêt à part une certaine fierté. Quand j'ai donné ma collection de coiffes ethnographiques au musée des Confluences, quand j'ai vu l'exposition, j'étais extrêmement fier et heureux. Donc oui, mais de l'intérêt, à part d'être aimé...
C'est l'intérêt essentiel de toute existence.
Oui. Non, et puis plus le temps a passé, plus j'attache de l'importance aux collections publiques. C'est là que j'ai finalement beaucoup appris, que j'apprends encore beaucoup. Et je pense que cette notion de patrimoine public est... pour moi, est devenu essentiel. C'est-à-dire que pourtant, je suis issu d'un monde privé, mais je crois qu'il faut enrichir nos musées, enrichir évidemment par des donations ou des dons tout court. Et c'est assez curieux parce que je viens pas du tout du monde des musées, mais j'en suis vraiment de plus en plus convaincu. C'est une chance inouïe que ce patrimoine. Appartiennent à tout le monde et voilà, mais mes donations sont pas énormes non plus, enfin c'est un début, Mais oui, j'ai commencé à faire des dons. Oui.
Antoine de Galbert, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à une chose. Quand je travaillais sur vous, je me disais, mais il n'a jamais voulu être artiste. Et puis j'ai trouvé la réponse dans des interviews. Si vous vouliez être artiste, et puis vous... En fait,
non,
vous,
en fait, je...
vos aquarelles...
Non, vous savez, être artiste, ce n'est pas un talent. C'est décider qu'on est artiste. Alors il y a des gens qui sont nuls, qui décident qu'ils veulent être artistes.
Vous avez décidé à 15
oui.
ans.
Alors moi, je faisais de l'aquarelle. Et quand je voyais la tête de mes enfants, quand je revenais de mes campagnes d'aquarelle, j'ai assez vite compris que c'était quand même pas vraiment ma meilleure qualité, ma vraie vocation. Mais ceci dit, j'ai essayé de dessiner, de tenir des pinceaux, et c'est pas finalement, enfin c'est assez intéressant parce que du coup, on respecte d'autant plus le geste de l'artiste quand on a, vous savez, c'est comme si vous avez jamais joué au foot, vous pouvez pas dire que Mbappé est génial.
Aussi.
Vous vous en foutez. Enfin bon, en général, les gens s'en foutent. Mais moi, j'ai beaucoup joué au foot et je peux vous dire que quand je regarde des matchs de foot, j'ai l'impression que c'est moi qui tire, quoi. Donc ça, c'est assez important de savoir ce que c'est que. Comme c'est difficile de retranscrire quelque chose sur un bout de papier, j'ai beaucoup d'admiration quand même pour les artistes.
Vous avez rêvé à un moment d'être Hugo Pratt.
Oui, mais ça, c'était mes jeunes années. Je sais pas où vous avez trouvé ça.
Bah, partout, partout.
Non, j'ai été passionné de bande dessinée. J'ai commencé vraiment. Par m'intéresser à l'illustration du 19e aussi, les grandes villes, Doré, tous ces gens-là.
Sublime.
J'adorais ça. Et puis ensuite, l'imagerie, j'étais très paresseux. Donc la BD, c'est le cadeau absolu pour les paresseux. Je préférais lire des BD que lire Madame Bovary, quoi. Et du coup, ben, je suis rentré comme ça dans le vif du sujet, dans l'art. Je suis entré en art, j'aime bien dire ça comme ça, par l'illustration. Et ce qui explique que je me suis beaucoup intéressé à la figuration et beaucoup moins à l'art conceptuel. Après, j'ai un peu réparé mes lacunes, mais j'ai une vraie histoire assez cohérente.
Vous pensez qu'une collection peut être une œuvre d'art ?
Alors, c'est pas vraiment ce que je dis, parce qu'après, on pense que le collectionneur se prend pour un artiste. Je pense que il y a deux types de collections. Il y a des accumulations, parfois de merveilles, de trésors, qui sont pas le fait d'un créateur, qui sont le fait de... Finalement, il y a deux types de collectionneurs. Il y a celui qui écrit son monde, qui réécrit l'histoire, qui finit par avoir accumulé tellement de choses cohérentes qu'on peut dire que sa collection fait œuvre. Et c'est ça, pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, n'est pas une œuvre, encore que. Pas. Certaines sont des œuvres. Hein. Et puis, il y a les autres qui font ce qu'ils peuvent et qui sont un petit peu influencés par la médiatisation, par les grandes enseignes commerciales, les grandes galeries, par l'actualité. Donc, ça les rassure parce qu'ils ont amassé des choses qui sont confirmées à court terme. Par tout ce système médiatico-financier.
Oui, alors que vous, Antoine de Galbert, vous dites que vous prenez le marché de l'art pour un gag. En fait,
non, j'ai pas dit ça. Non.
Ah bon ?
Non, non, je m'y intéresse beaucoup parce que j'en dépends, puisque si les prix deviennent trop chers, je peux plus acheter. Non, ça m'intéresse beaucoup, mais il faut dissocier l'art et le marché de l'art, c'est tout. Mais on peut pas ignorer le marché, l'art et l'argent, c'est une histoire millénaire, donc voilà, ça existe.
Et tout de même, votre devise en tant que collectionneur, c'est coup de foudre et urgence.
Ouais, alors,
pourquoi urgence ?
Urgence, c'est parce que Vous voyez, il m'arrive des choses incroyables parce que je peux passer devant un Rodko, le grand Rodko qui a été vénéré là récemment, sans même me retourner. C'est-à-dire, ça m'intéresse absolument pas. Et de toute façon, même si ça m'intéressait, c'est pas dans mes prix. Et en revanche, quand je vois une œuvre qui est faite pour moi, ou que je crois avoir été faite pour moi, il faut que j'achète tout de suite. C'est une sorte de possession maladive. Et donc, je vais très très vite, effectivement. Donc,
comme un Don Juan d'œuvres.
Si vous voulez, il y a des grands intellectuels qui regardent les œuvres, qui les analysent, qui les expliquent. Moi, je ne regarde que celles que j'ai envie d'acheter. Enfin, vous voyez, c'est un peu bizarre. Mais c'est pas de la vulgarité, c'est une forme de besoin de possession qui est absurde, parce qu'on finit par ne plus regarder un chef-d'œuvre et par uniquement chercher comme un chien truffier, comme ça. Non, c'est un peu maladif.
Mais justement, vous dites que plus vous avez accumulé, plus vous avez compris qu'il s'agissait d'une vraie maladie.
Ah bah oui, parce que j'ai dit souvent ça, je pense que le plaisir peut devenir vice. C'est un peu le truc, quoi. C'est un peu comme déguster un grand vin et en boire quatre bouteilles.
Alors, comment vous faites face à tout ça, Antoine de Gelbert?
Je fais ce que je peux. Je m'interdis le samedi, je reste chez moi, par exemple.
Comme un alcoolique.
Non, mais je fais un peu d'humour, mais c'est un peu vrai. Parce que dès que je sors, je peux pas m'empêcher de revenir avec un truc.
Vous dites aussi que l'art vous aide à conjurer vos peurs. Quelles sont-elles?
Alors ça, c'est un autre sujet. C'est plutôt l'analyse psychologique des collectionneurs et qui se rassurent, qui sont un peu comme des hamsters. Vous voyez, les hamsters...
C'est rassurant de se dire qu'on est comme un hamster.
Non, mais les hamsters se blottissent parmi leurs coquilles, leurs machins, leurs noix. Et nous, on se rassure. Mais en fait, en vieillissant, ça fonctionne de moins en moins bien parce qu'on se rassure peut-être, mais les œuvres sont là et elles vont nous enterrer. Enfin, je suis un peu dramatiquement triste, mais c'est un peu vrai, quoi. Il faut résoudre ça avant de partir. Il faut essayer de tout vendre ou de tout donner.
Vous pensez qu'on peut le résoudre?
Oui, parce que je pense que ça doit être très violent. Mais je pense que je ressens maintenant un moment un besoin de m'alléger, oui.
Est-ce que ça vous manque, la Maison Rouge?
Alors, pas du tout. C'est très étonnant. Ça a été une aventure extraordinaire. Grâce à une équipe dirigée par Paul Eisenberg, il faut que je la cite. Et une équipe géniale. C'était quasiment une famille pour moi. C'était vraiment... Bon, ils étaient salariés. C'était une structure économique aussi. Mais et à un moment, j'en ai eu marre. Alors, d'une part, ça me coûtait très cher, parce que je ne suis pas un capitaine d'industrie. Et d'autre part, j'avais la sensation que j'allais faire des expos trois fois par an, comme ça, jusqu'à 90 ans. Et je me suis dit, le grand luxe dans la vie, c'est vraiment un grand luxe, c'est de pouvoir changer de métier, Très peu de gens peuvent changer. Beaucoup de mes amis sont dans le même boulot jusqu'à leur retraite, et en ont marre. Alors, c'est pas changer pour ne rien faire, c'est changer pour faire différemment. Et on fait tellement de choses avec cette fondation, qui est toujours la même d'ailleurs, mais qui n'entretient plus la Maison Rouge, que finalement je suis ravi. Donc ça me manque, mais absolument pas. Et puis je pense qu'il faut pas vieillir. Nous-mêmes, il faut pas qu'on vieillisse, mais il faut pas que les lieux vieillissent non plus. Vous voyez, si Marilyn était encore en vie, vous vous rendez compte?
Elle serait dévastée.
À quoi elle ressemblerait, ça?
Parce que vous dites... Antoine de Gelbert, vous avez déjà montré des extraits de votre collection personnelle au Musée des Beaux-Arts de Lyon, de Grenoble, au MAD de Lisbonne, au Portugal, et au Muséum Sztuki de Łódź, en Pologne. Alors, rien ne m'étonne, sauf Łódź, qu'on prononce Łódź en polonais. Oui. Étant à moitié polonaise et connaissant un peu la ville, j'ai envie de vous demander ce que vous faisiez là-bas.
Alors, c'était une rencontre. Et puis, il faut savoir que le musée de Łódź est un musée historique qui a été des collections constituées avant la guerre. C'est assez incroyable, d'ailleurs, compte tenu de l'histoire de la Pologne, de l'arrivée des Soviétiques, etc. Et c'est un musée extraordinaire, où il y a des collections magnifiques, très polonaises, style Opalka, enfin, tous les grands artistes. Mais alors, on n'a pas eu de chance, parce que c'était juste au moment du Covid, et donc l'expo a été fermée très rapidement. Heureusement, on a un petit catalogue. J'avais fait une expo très politique, avec des gens charmants, et à l'époque il y avait encore un régime un petit peu extrémiste, un petit peu d'extrême droite comme on dit, et donc c'était des résistants finalement, c'était une ville qui était un petit peu en dehors, maintenant ça a changé heureusement. Non, c'était un très beau souvenir, un peu triste parce que c'est pas un pays très gai, et puis la charge historique est tellement forte, tellement dense, violente, répétitive, que on sent tout ça. On sent vraiment que... Et puis, il y a eu beaucoup d'exodes. Et les Polonais, mais pas seulement la communauté juive. Il y a beaucoup d'artistes polonais qui sont partis. Et la population est rude et un peu rugueuse.
Mais avec
des chauffeurs de taxi, oui. Mais l'humour...
absurde.
En tout cas, c'était une expérience formidable. Et avec Arthur Toquet, qui bosse avec moi depuis 20 ans, on avait fait une expo super, mais très, très, assez violente, assez...
Oui, c'était tout. Ouais. L'art est assez violent en Pologne. Ouais. Vous dites, Antoine de Gelbert, que vous avez longtemps refusé de montrer votre collection parce que vous aviez peur de cette mise à nu. Je vous cite, non pas que je craigne de me révéler car je suis sûre de ce que j'aime, mais j'avais peur d'être mal compris.
Non, je voulais pas qu'on croie que je crée une fondation pour montrer mes œuvres, c'était, ça aurait été un peu... Donc c'est vrai qu'à la Maison Rouge, j'ai fait une petite expo à un moment. Non, on a fait une grande expo vers la fin, enfin en 2000, je vais dire une bêtise, je me souviens plus, qui s'appelait Le Mur.
À la Maison Rouge.
Et là, j'ai fait une expo très insolente, volontairement, oui. Un peu pour contrer le... la prétention du marché de l'art, de la médiatisation, les paillettes, quoi. Et du coup, on a mis au mur 1200 œuvres, je crois, murales, y compris celles que j'avais achetées il y a 40 ans, ou tout, quoi. Il y avait un Fontana, puis à côté, il y avait ma voisine, quoi. Donc, et on a fait ça avec un ordinateur, et c'était une expo qui a été évidemment critiquée.
Alors, attendez, quand vous dites ordinateur, je vous interromps, parce qu'il faut que vous expliquiez aux auditeurs, c'est un algorithme.
Ce que je voulais, c'est dire que pour dans un temps limité, c'est-à-dire le temps d'une exposition, on avait envie que tous les artistes soient au même niveau. C'est-à-dire que, et en réalité, c'est ce qui se passe. En réalité, aucun des artistes, il y avait des artistes très connus et totalement inconnus, et aucun des artistes ne s'est plaint. C'est-à-dire qu'au fond des choses, il y a une vraie confrérie entre les artistes.
Ah bon ?
Oui. Alors après, le monde fait qu'ils deviennent aigris, jaloux, paranoïaques, insatisfaits, en permanence en demande. Mais au fond des choses, moi j'ai vu des discussions entre, je sais pas, par exemple Boltanski qui discute avec des jeunes. Enfin, il s'est passé une chose extraordinaire. J'avais peur parce que c'était un carnage visuel quand même. Hein. Et puis j'étais gonflé parce que j'ai mis des choses que, non pas que j'aimais plus, parce que j'aime toujours tout ce que j'ai fait, mais que je n'achèterai plus aujourd'hui, c'est normal. Et puis en fait, ça a marché, parce que tout ça, c'était mes enfants, quoi, un peu. Enfin, je métaphorise un peu, mais c'était acheté par la même personne. Et du coup, il n'y avait pas de mensonge. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai acheté ça, j'aimais ce que j'ai acheté, toujours. Même si aujourd'hui, bon, il y a des trucs, c'est normal, on évolue comme les artistes eux-mêmes évoluent. Donc c'était vraiment une très belle expérience, assez amusante et techniquement incroyable.
Always on our way out. I love you, baby, but it seems we've been stuck in a drought. The storm is coming, but you still somewhere having your doubts. Guess you've been waiting all the time, but you can't get your time back. You are the remembered thing, for you live to regret that. Now you go front on me.
I'm gonna miss you, baby. I'm gonna miss you so. Don't wanna let you go.
let you go, but I'm gonna let you go, 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 go.
Abeille, le morceau Chasing the Bus.
Grand Canal. Eva Bester sur France Inter.
Antoine de Galbert, récemment au musée de Grenoble, vous avez montré une exposition retraçant différentes donations en 270 images réalisées par 95 photographes. Une histoire d'images, c'était le titre. Que pensez-vous du siècle dernier et du nôtre?
C'est absolument effrayant. Le 20e siècle est le pire de tous.
Ah, vous pensez? C'est plutôt rassurant alors.
Oh oui, c'est effrayant. Et puis alors nous, on est une génération, enfin on était sûr de ne pas connaître de guerre, on était personne ne sait tenir un fusil en France, à part les militaires de profession. On est complètement, même trop pacifiste peut-être, on se trompe peut-être en ce moment, ça m'angoisse énormément. Moi j'adore l'histoire, et j'avoue que ça me fait peur, quoi. C'est une de mes grandes inquiétudes, et je ne dois pas être le seul,
non.
J'imagine, et je suis très angoissé en fait, par les choses qui reviennent. Je parle même pas de l'antisémitisme, ce qui est quelque chose de très particulier, dont il faut parler avec précision. Mais par exemple, ce qui se passe en Russie, ou le Chinois qui va nous rendre visite bientôt, qui devient un véritable dictateur. Enfin, il y a des choses qui recommencent. Et alors, où est l'ONU, par exemple? Dans les années 30, ce qu'on appelait la SDN, était devenue incapable, incompétente. Et finalement, on n'était plus capable de gérer les affaires du monde entre nous. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est la même chose. On a l'impression que... Comment voulez-vous que Poutine, qui a le droit de veto à l'ONU, comment voulez-vous que l'ONU... Enfin bref, tout ça m'inquiète énormément, mais vraiment très gravement, quoi. C'est très sombre dans ma tête. J'ai peur, en fait.
Alors je vais vous sauver temporairement pendant quelques minutes, Antoine de Galbert.
Mais parlons d'autre chose. Oui,
mais alors en fait là le mot qui me vient en vous écoutant c'est chaos, et ça tombe vraiment bien puisque l'exposition qui a lieu en ce moment au Musée d'Art Contemporain de Lyon, c'est désordre. Et vous aviez déjà fait une exposition qui s'appelait Un certain désordre à Moscou. Qu'est-ce que vous aimez tant dans le désordre?
C'est un postulat, c'est-à-dire que pour moi alors j'ai rien contre l'histoire de l'art qui m'a appris beaucoup, mais j'ai beaucoup de mal avec l'histoire de l'art contemporain, c'est-à-dire que les gens qui s'emparent de l'avenir, qui décident de ce qui est bien et mal, et je pense que j'ai beaucoup appris quand dans mes années dauphinoises, parce que j'allais souvent chez un vieil ami, Paul Gauzit, qui avait une galerie, ou qui a toujours d'ailleurs une galerie extraordinaire, et où il pouvait montrer à la fois un tableau du 19e, un masque africain, un tableau abstrait, enfin vous voyez, et j'ai l'air un peu crétin de dire ça, mais c'est là où j'ai appris l'universalité et la relation entre les œuvres amies entre elles, les œuvres qu'on achète sans savoir qu'en fait elles se sont déjà rencontrées. Vous voyez. Et donc le mot désordre pour moi c'est pas du désordre, c'est la condition d'une collection. Donc si je dis désordre, c'est parce qu'aux yeux des gens, c'est désordonné. Aux yeux des gens, ce que ma collection est hétéroclite ou éclectique, je déteste ces mots. Si l'art n'était pas éclectique, c'est la moindre des choses. Donc je fuis les ghettos et les cloisonnements contemporains, bruts, machin, tout ça, je mélange tout.
Alors l'exposition rassemble plus de 200 œuvres de plus de 150 artistes, sans hiérarchie ni classement. Mais vous dites, j'y reviens quand même, parce que vous dites, Antoine de Galbert, il y a un mot qui revient souvent dans votre bouche, c'est bordel. Vous dites que quand vous arrivez dans une foire d'art contemporain, vous êtes comme Simenon dans un bordel.
Oui,
c'est-à-dire.
Alors vous êtes gonflé d'avoir retrouvé ça.
Ah bah oui,
mais c'est
gonflée,
un peu ça. Il y a un aspect sexuel, peut-être, dans la recherche des œuvres, un désir très, très. Non, mais c'est une bonne métaphore. Oui. Et puis il y a aussi le bordel, c'est aussi un terme de... On avait reçu à la Maison Rouge Pierre Legendre, qui est décédé, je crois, maintenant, qui était une sorte d'intellectuel incroyable. Je crois qu'il est très connu dans les milieux universitaires. Et il parlait, à un moment, il me semble qu'il parlait de la collection comme d'un bordel animiste. Et je trouvais ça magnifique. Alors après, j'ai un peu essayé de comprendre ce qu'il voulait dire. C'était pas tout à fait adapté au titre d'une expo, mais le bordel, c'est la joie aussi. C'est les deux.
Dionysiaque.
Voilà, c'est l'horreur, peut-être, mais c'est aussi la fête.
Dans l'exposition, il y a beaucoup d'artistes contemporains connus, Annette Messager, Hans Bellmer, Robert Filliou, Brassailles Molinier, Magritte ou Alberola, et aussi quelque chose auquel vous tenez énormément, Antoine de Galbert, beaucoup d'artistes que l'on ne voit pas ailleurs. Vous avez toujours aimé ce qui était en marge ?
Écoutez, oui, mais je ne fais pas exprès, je cherche pas des artistes marginaux, hein. Mais je pense, je veux dire, une bonne collection, je pense qu'il faut qu'il y ait à la fois des artistes connus et des inconnus. S'il n'y a que des inconnus, au bout de 20 ans, ça veut dire que vous avez quand même pas beaucoup de vision. C'est parce que bon, c'est quand on achète beaucoup, même sans faire exprès, il y a quand même des artistes qui sont reconnus. Et s'il y a que des artistes connus, bah c'est une accumulation de dollars sur les murs. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait les deux. Mais il y a des œuvres amies, c'est-à-dire que parfois j'achète des œuvres en me disant tiens celle-là c'est évident, cette œuvre est très très proche et la sœur de l'autre que j'ai déjà. Enfin oui, on crée une famille en fait.
J'aimerais bien qu'on évoque certains artistes de votre collection, par exemple l'Ukrainien Boris Mikhailov.
Alors ça, Mikhailov, je l'ai découvert assez tardivement finalement. On avait fait à la Maison Rouge une exposition qui s'appelait Sots Art, qui regroupait à la fois les artistes avant 89 et après, qui étaient très opposants avant 89. Ils ont fui l'URSS. Il y en a même qui ont fait de la prison. Et après 89, ils ont fui aussi parce que de toute façon, c'était un régime qui était à peine mieux. Enfin bon, bref. Et donc, Mikhailov, j'ai connu à ce moment-là. Et c'est un des plus grands pour moi. C'est terrible sur le plan de la force des images.
Oui, c'est assez dérangeant même.
Il photographie l'Union soviétique puis la Russie depuis les années 60. Il est ukrainien d'ailleurs.
Il y a des femmes en culottes rouges et en foulard.
Ah non, mais c'est extraordinaire, mais c'est très très dur.
Il y a du sang.
Et on peut rendre hommage d'ailleurs à Suzanne Taraziev, qui était une galerie qui est morte, la pauvre, et qui avait une galerie vraiment gonflée, qui faisait des choix gonflés, et qui était elle-même d'origine ukrainienne, de la même ville que Mikhailov, et qui a fait 10 expos avec lui. C'est elle qui l'a propulsé, en tout cas en France, je crois, ou en Europe.
Un mot sur la tombe d'Éric Pougeot.
Alors ça, c'est une histoire inouïe. Un peu compliquée parce que ça choque un peu les gens. Donc disons-le...
La photo dans le catalogue.
Voilà, c'est un artiste qui m'a demandé de réaliser sa tombe. Donc en fait, j'ai produit sa tombe. Et cette tombe, j'en suis temporairement propriétaire. Donc je dois la restituer quand il va mourir. Il mourra certainement après moi. D'ailleurs, je suis en train peut-être d'imaginer que cette œuvre soit donnée temporairement au musée de Lyon, puisqu'elle est très bien installée sur du gazon devant le tramway. Et alors, pour être complet, il faut dire qu'il y a marqué dessus « Fils de pute » en lettres d'or. Et donc c'est une œuvre que je crois que je l'ai jamais réellement comprise, parce qu'on comprend pas tout. C'est ça qui est génial. Si on comprenait tout, on ferait autre chose. C'est une insulte finalement à lui-même. Alors je sais pas, je lui ai jamais posé vraiment de questions, mais en achetant cette chose-là, j'ai eu l'impression de transgresser un peu. Et il faut s'exciter quand on collectionne. Si c'est pour acheter ce qu'on aime ou ce que voilà, c'est donc moi très souvent j'achète des choses qui me choquent en fait au fond de moi-même. Mais il faut se marrer, c'est même si l'œuvre est dramatique, il faut quand même aller au-delà de soi-même, sinon on n'est pas un collectionneur.
Je pense que la peinture, oui, elle permet d'arrêter le regard, elle permet de penser l'image, évidemment, ou de la trahir ou de la faire apparaître, parce qu'après tout, la peinture a été aussi un outil de propagande très efficace. Et dans cette époque très étrange dans laquelle on vit, qui était d'absolument surinformation au détriment d'une qualité d'information, je pense qu'effectivement, la peinture, même quand bien même elle reprend et elle met en scène des éléments symboliques, reste plus proche, en tout cas pour le spectateur, d'une opération d'intelligence. Ouais.
C'est l'artiste Stéphane Pancréac ou Pancrèche. J'ai entendu les deux prononciations.
Moi, je dis Pancréac, mais je
sais alors Pancréac à l'Institut du Monde Arabe en 2015. On voit dans votre collection, Antoine de Galbert, c'est Théâtre de la Mémoire, des petites maquettes.
Alors, c'est un artiste que je connais depuis très longtemps, mais que j'ai redécouvert en faisant sa connaissance réellement, il y a relativement peu de temps. Et j'ai découvert qu'à chaque catastrophe, toutes les catastrophes se succèdent. Ce sont les Twins, c'est l'attentat de Nice. À chaque catastrophe, il fait une œuvre qui est composée de un peu de manière un peu presque artisanale, en incluant des photos, en incluant des, et qui sont en fait bizarrement très belles, parce qu'en fait le drame peut être esthétique, hein. Et donc au fur et à mesure, j'en ai acheté 2, 3, 4, puis finalement j'en ai acheté je sais pas combien, et donc dans l'exposition il y en a une bonne dizaine, dont les dernières traitent de l'Ukraine. Mais c'est très très beau, et c'est fait, c'est pas maniéré, c'est vraiment bricolé avec des bouts de bois, des bouts de fer. C'est vraiment très très bien. C'est un artiste qui est gonflé, d'ailleurs qui crée des œuvres en règle générale qui plaisent pas à tout le monde. Et c'est quelqu'un qui prend des risques et qui peut être très aimé ou pas du tout apprécié.
Réhabilitons le mot gonflé ce soir dans Grand Canal. Antoine de Galbert, il y a beaucoup d'objets de culte dans vos collections. Oui. Il paraît que vous photographiez les cimetières. Mmh. Il y a une magnifique croix sculptée d'Asie du Sud-Est avec des crânes partout. Oui. Et puis, il y a aussi des créatures assez terrifiantes, comme une sculpture en fer et plumes de Kafi Gelejo Senufo, oui, qui est terrifiante. Je voulais savoir, vous avez des crânes aussi de Papouasie, oui, Nouvelle-Guinée. Est-ce que vous avez peur de certaines de vos œuvres?
Non, pas du tout, parce que vous savez, les objets envoûtés, enfin, ou dites envoûtés dans l'histoire, entre autres, de l'art africain, sont désactivées en quelque sorte. Si vous y croyez pas, elles vont pas vous mordre.
Visuellement, simplement.
Voilà. Mais c'est une collection, alors là, comment dire, pour résumer, c'est vraiment l'explication de ces objets de culte ou de religion ou de rituel. C'est uniquement que je me passionne pour tout ce que l'homme invente pour expliquer sa mort. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une religion? Alors après, je vais peut-être choquer les religieux, mais c'est pas autre chose qu'une invention de l'homme pour expliquer sa fin, hein, pour expliquer son, voilà. Et donc pour moi, mais je sais que ça déplaisait fortement à ma mère, à l'époque, quand elle était encore là. Mais je mets facilement une croix à côté d'un objet, à côté d'un fétiche. Pour moi, c'est la même chose. Mais en revanche, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui croient, tout simplement. Et alors, ce qui est très beau, entre autres, dans le catholicisme, c'est que les gens les plus croyants sont les plus modestes, souvent. Les plus simples. L'intellectuel, il peut devenir athée, mais les gens, même en Afrique ou en Océanie. Et du coup, il y a des objets d'une beauté totale parce qu'ils sont faits de, c'est ce qu'on appelle l'art populaire, en fait. Et donc, j'ai une passion pour ça, mais ça veut pas dire que je suis un bigot et que je passe ma vie. Je suis pas comme, je sais plus qui disait, un crapaud de bénitier.
Rolling Stones. C'est votre choix musical, Antoine de Galbert?
Oui, mais enfin, c'est un choix. Il faut bien choisir quelque chose, mais j'ai adoré ce morceau.
Il ne savait pas où il allait. Il allait sous la lune, mais il ne savait pas s'il allait découvrir des types comme Césaire. Il ne savait pas ce qu'il allait découvrir. Donc il lisait Césaire, il lisait.
La poésie, c'est comme Zoka Obi-Wan, la poésie.
Parce qu'il me disait, c'est une poésie d'explosion. C'est une poésie de volcan, d'éruption.
Je pense qu'il a bien compris non seulement l'intention poétique de Césaire, mais qu'il a bien touché, je pense, ce rapport secret que nous entretenons avec la fée de manière populaire, et qui est d'accorder à la parole, au vers, donc à la poésie, et notamment encore plus celle de Césaire, la force de se transformer en capacité énergétique.
La dernière voix que vous avez entendue est celle de Patrice Chamoiseau. C'est dans le documentaire « Étoiles » sur Robert Saint-Rose, réalisé par Gilles-Élie Dicozac. Dans l'exposition « Désordre » qui est en ce moment au Musée d'art contemporain de Lyon, Antoine de Galbert, il y a la maquette de la fusée « Étoiles » de Philippe de Gobert. Ça, c'est l'artiste. Mmh. Et je vous laisse raconter l'histoire de Robert Saint-Rose.
Oui, très rapidement, parce que donc Philippe de Gobert, artiste belge qui est à la fois un grand photographe et qui reproduit sous forme de maquettes extraordinaires des grandes architectures. Là, il a fait ce travail en reproduisant cette sorte de spoutnik, je sais pas comment on appelle ça, une ogive ou un... Et Sainte-Rose, qui était un antillais, un petit peu perché, je pense quand même, hein, a décidé de construire cet engin pour quitter le monde.
Et aller sur la lune.
Peut-être pas pour nous sauver, mais en tout cas quitter le monde. Et voilà. Et tout le monde, évidemment, le prenait pour un clown. Et un jour, donc, tout a disparu. L'engin, qui est une sorte de... Ça ressemble un peu à Apollo 8, vous voyez, vous souvenez les... Et puis, et lui-même a disparu. Donc c'est un grand mystère.
Mais surtout qu'il voulait faire décoller sa fusée grâce à l'énergie des poèmes d'Aimé Césaire. Voilà. C'est magnifique
donc
comme
c'est
idée.
Oui, c'est ça. Il fait partie de l'art brut en quelque sorte, quoi. Sauf qu'il y a quand même le mystère physique de la disparition de son corps et de l'engin. Et donc c'est une œuvre très jolie où il y a la petite maquette réalisée par Philippe de Gobert et une affiche qu'on colle à chaque fois qu'on montre l'œuvre.
Il y a un artiste qui m'a semblé très émouvant, c'est ACM Alfred Corinne Marié. Et Corinne, c'est le nom de son amoureuse qu'il a glissé au milieu de ses deux noms à lui.
Oui. En fait, il s'appelait Alfred Marié. On peut en parler un petit peu aussi. Il vient de mourir, donc c'est un type... moi, j'ai évidemment... je l'ai rencontré, mais je peux pas dire que c'était un grand ami. Mais enfin, j'ai des souvenirs avec lui très précis de déjeuner chez eux. Donc c'est quelqu'un qui, au départ, a fait une école de beaux-arts, etc., mais qui très vite est parti dans 10 ou 15 ou 20 ans de solitude. Là, je suis pas très précis parce que je me souviens plus. Et puis, il s'est remis à travailler, à faire des sortes de constructions avec des électrodes de radio. Et sa femme l'a beaucoup aidé, je pense, à revenir au monde, en fait, à se réaliser comme artiste. Et donc, il a définitivement adopté le pseudo d'ACM, Alfred Corinne, qui était sa femme. Et alors il y en a beaucoup, c'est une œuvre moi je trouve ça magnifique, on dirait des petits palais idéals de facture cheval, vous voyez, mais tout ça fait avec des matériaux très précis et il y en a beaucoup à Villeneuve-d'Ascq, entre autres au musée qui conserve la collection de La Racine.
Il y a aussi la sud-africaine Jeanne Alexander qui fait des sculptures fantastiques très réalistes.
Alors Jeanne Alexander, c'est une blanche sud-africaine qui faisait partie de ces blancs qui ont combattu l'apartheid. Et ce sont des œuvres absolument incroyables. Et dans l'exposition My Joburg qu'on avait fait à la Maison Rouge sur la ville de Joburg, on avait recréé une installation énorme avec du faux gazon, des fils de fer barbelés et ces personnages très bizarres qui sont entre animaux et humains, qui font penser à des sortes d'esclaves ou de... je sais pas comment on peut dire.
Un petit mot sur le Canadien Neil Farber.
Alors Neil Farber, il faisait partie d'un collectif à Winnipeg. Ça aussi, c'est une expo de la Maison Rouge. Parce que moi, j'achetais dans mes expos aussi, c'était génial. Et c'était My Winnipeg, on avait fait une expo extraordinaire, il y a une des premières d'ailleurs sur les villes. Et il y avait un collectif qui s'appelait, j'ai oublié, peu importe, et où il y avait Marcel Zama, enfin ils étaient 4 ou 5. Et voilà, et donc, ben c'est un tableau que j'ai acheté à l'époque. Winnipeg, qui est une ville un peu dévastée, un peu has-been, puisque c'était une ville très importante autrefois, dans une zone tellurique, un peu très magique, où les Indiens, alors je sais pas s'il faut dire Indiens, on sait plus ce qu'il faut dire maintenant, où les indigènes, on dit pas non plus, autochtones non plus.
Amérindiens.
Les Amérindiens, oui, les peuples d'origine, en tout cas, sont assez maltraités, sont assez désocialisés. C'est assez impressionnant.
Vous faites aussi, vous donnez à voir aussi l'artiste belge, sculpteur, photographe et chef d'atelier aux Beaux-Arts de Paris, Olivier Blancard, qui se déguise en plein de personnalités, en Balzac, en David Lynch, en Guillaume.
Alors Blancard, c'est un artiste qui a autant d'ennemis que d'amis, parce que c'est une sorte d'activiste qui adore foutre le bordel partout où il passe. Mais j'aime beaucoup, parce qu'il est totalement... D'abord, ce travail est extraordinaire.
Oui, parce il peut être durasse.
Il a fait d'autres choses. Hein. Il est aussi comédien. Quand il se photographie comme ça, il peut se faire grossir, maigrir, changer de couleur de cheveux.
Ah, c'est impressionnant.
Donc c'est vraiment un travail quand même. Au moment où il appuie sur l'objectif, il est plus qu'un plasticien. Et puis, c'est un numéro, tout le monde le connaît. Et c'est un artiste très passionnant, très cultivé d'ailleurs, mais très provoque.
Antoine de Galbert, vous aimez bien citer cette phrase du collectionneur et résistant Daniel Cordier, qui disait qu'il avait trouvé dans les œuvres ce que les hommes n'avaient jamais pu lui donner. Qu'est-ce que les hommes n'ont jamais pu vous donner ?
Alors ça, c'est trop personnel.
Vous avez le droit de ne pas répondre, évidemment.
Oui, j'en sais rien, mais j'aimais beaucoup cette phrase. On a tous un manque de tactile, de tactilité, de... On a tous des problèmes de relationnel.
Bien sûr, c'est terrifiant l'humanité.
Alors, quelqu'un d'autre avait dit que les œuvres étaient comme le chien, elles ne répondaient pas. Et finalement, c'est peut-être pour ça que c'est plus simple d'avoir une œuvre à côté de soi que d'avoir quelqu'un qui vous contredit, qui vous emmerde toute la journée.
Et vous savez, il y a d'autres types de rapports aussi.
C'est vrai.
Et certains chiens aboient très fort. Vous dites aussi que votre collection dresse une sorte d'autoportrait. À quoi ressemblez-vous, à votre avis ?
Ça, je l'ai pas vraiment dit parce que je pense pas que c'est vrai. Non, on peut en creux, on peut voir des fantasmes ou des peurs d'un collectionneur. Mais je pense que, enfin, en ce qui me concerne, je suis quelqu'un d'assez conventionnel. Je suis un bourgeois de province, en fait.
Enfin, dans votre collection, c'est rien
de
conventionnel.
Oui, mais justement, c'est ce que je veux dire, c'est que je m'intéresse pas aux gens qui sont comme moi. Donc ce qui m'intéresse, c'est la différence, c'est de rencontrer un mec qui n'a pas la même couleur de peau, qui, vous voyez, c'est ce que je veux dire. Et du coup, la collection, c'est ça, c'est aussi... donc si c'était mon autoportrait, je serais vraiment gravement abîmé, parce que c'est une collection quand même assez violente.
Ailleurs et altérité, c'est quand même pas mal. Merci beaucoup, Antoine de Galbert.
Merci beaucoup.
Je rappelle que votre exposition Désordre est visible au Musée d'Art Contemporain de Lyon jusqu'au 7 juillet prochain. Si l'on ne peut s'y rendre, on peut se procurer le catalogue. Comme pour l'exposition précédente, d'ailleurs, une histoire d'images, donation Antoine de Galbert au Musée de Grenoble. Catalogues qui sont tous édités par Empire et votre fondation. À signaler aussi, en mars 2025, il y a une exposition qui s'appellera Énormément Bizarre. Ce sera une donation de la fondation Antoine de Galbert, de la collection donnée par Jean Châtelut, et ce sera au centre Pompidou. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Joseph Ascal, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Baptiste Collion.